le 6 avril 2016 en compagnie de Karine Revelan. Karine, vous êtes actrice, comédienne, comment dit-on ?
Moi, je dirais plutôt comédienne. Pour moi, je pense qu'actrice, c'est plus pour l'audiovisuel. Peut-être que c'est une idée fausse, mais je la vois comme ça. Et comédienne, plus pour le théâtre.
Alors, c'est en tant que comédienne que vous allez en Avignon en juillet prochain, oui, jouer Les Saisons de l'âme. C'est une pièce importante pour vous, oui, à plusieurs titres. Vous jouez avec des comédiens que vous aimez bien, que vous appréciez, mais aussi parce que Les Saisons de l'âme, vous êtes un petit peu coupable, carrément même de la mise en scène et même de sa conception.
Tout à fait. En fait, le projet est parti de l'idée d'une demande d'un maire me disant « Voilà, je souhaiterais avoir un spectacle autour de la guerre de 14-18. » Et j'avais déjà fait quelques spectacles autour de ce thème au niveau des enfants de la guerre, également sur les enfants soldats. Et donc, c'était déjà un sujet à la base qui m'intéressait. Donc, j'ai décidé de partir sur ce projet, d'accepter. Et j'avais donc un an pour le préparer. Donc, j'ai pris le temps de lire, de découvrir beaucoup de journaux, de films. Et à partir de là, petit à petit, est née l'idée d'avoir deux comédiens sur le plateau. Donc, le choix d'un comédien un petit peu rond, d'un autre comédien grand et mince.
Quand on dit rond, ce n'est pas dans la rondeur de son jeu, c'est bien physique.
Oui, c'est physique. J'avais envie de jouer sur ce contraste-là de l'homme de la terre, et on va dire, et l'homme plus, de bonne famille, on va dire. Hein. Et donc, à partir de là, j'ai choisi donc les comédiens. Donc, en effet, vous parlez des comédiens que j'aime. En effet, Bruno, Miara et Michel Laforêt, avec qui j'ai joué beaucoup de fois. J'ai été aussi mise en scène par Michel Laforêt, parce qu'on a notre compagnie, c'est Buzz Company. Donc ce spectacle, voilà, il a d'abord fallu que je fasse le choix.
Il y a une recherche documentaire.
Oui, énorme, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le thème de 14-18. Ce n'est pas évident en peu de temps de tout dire.
Alors sur quoi vous êtes arrêtée alors ?
Alors j'ai voulu partir sur les paroles de Poilu, en fait vraiment sur des récits de Poilu, et pas dans le roman.
Les fameuses lettres qui ont été oui, récoltées par France Inter, je crois.
Oui, c'est ça. Oui. Et après, j'ai voulu aussi mettre des extraits de La peur de Gabriel Chevalier, qui pour moi était trop mis de côté, très peu connu. Je me suis rendu compte que peu de gens connaissaient ce livre, et qui pour moi m'a beaucoup touchée.
Chevalier, on peut le dire, c'est, excusez-moi, je vous coupe, mais il est beaucoup plus célèbre par son livre Clochemerle.
Oui,
Clochemerle, on connaît beaucoup Clochemerle. C'était un écrivain lyonnais.
Oui.
Lui a écrit La peur qui est d'un tout autre ton.
Oui, c'est-à-dire il osait dire qu'en effet, les hommes avaient peur. Et à l'époque, il ne fallait pas le dire. Il y avait toute une propagande comme quoi il fallait encourager les hommes à aller à la guerre et la peur, non, il ne fallait surtout pas que ça se dise. Je trouvais ça du coup intéressant de partir sur l'humain, sur l'homme, sur son vécu, sur ses conditions de vie dans les tranchées. Et donc c'est pour ça que ce texte m'a plu. Et puis j'ai également pris par rapport à un film, non, j'avais lu aussi le journal, enfin le livre, plus, et après j'ai regardé le film en noir et blanc, Les Croix de Bois, de Dorgelès, où j'ai pris la scène de cet homme qui meurt dans les bras de son compagnon, en disant voilà, qu'il meurt en détestant sa femme, puisqu'on comprend qu'elle a eu un amant pendant que lui était au front. Et il y a toute cette ambiguïté de la souffrance de mourir, et de laisser une petite fille, en même temps, comment accuser la femme d'avoir pu avoir un autre homme pendant son absence, du fait que voilà, c'était comme 4 ans de guerre, c'était la solitude pour les femmes. Voilà, c'est pas évident de juger également cette attitude-là. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est le rapport entre les hommes, le rapport entre eux, cette fraternisation aussi, très forte. Et je trouvais ça très intéressant de parler de l'humain, voilà, des souffrances à travers les saisons.
À travers les saisons, d'où le titre « Les saisons, voilà, de l'âme ». Donc votre travail, c'était accéder, découvrir, trier, choisir parmi tous ces textes. Vous avez rajouté des textes qui sont de vous, de votre plume.
Oui, c'est ça. En fait, je n'ai pris que des écrits réels et d'auteurs,
oui.
Absolument rien de moi-même. Donc, je ne pense pas avoir la plume pour l'écriture, en tout cas. Mais en effet, il fallait que je trouve un fil conducteur. Et je l'ai trouvé à travers les paroles de Poilu, en faisant le personnage, donc j'interprète le personnage de l'arrière, de cette femme qui raconte.
Oui.
Et donc elle va raconter les événements qui ont pu avoir lieu pendant les périodes d'hiver, enfin chaque saison, les hommes ont vécu dans les 4 années des choses très difficiles, voilà, des combats, etc. Et il y a aussi une chose aussi qui a permis de faire le lien entre tous ces textes, c'est aussi la musique.
Il y a une partie musicale importante.
Voilà, il y a un pianiste qui est sur scène et qui non seulement accompagne les mots pendant que les textes sont dits, mais également des moments entre les textes.
Alors on peut citer ce pianiste.
Didier Klein, que j'ai connu également déjà auparavant, et c'est pour ça que je l'ai choisi, sur un spectacle de Boris Vian qu'on avait fait ensemble, où il était déjà notre pianiste. Et quand je lui ai fait la proposition, du coup, vu qu'on avait travaillé déjà ensemble, on avait déjà une belle complicité.
Avec des partitions écrites, des partitions arrangées et des parties improvisées.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec lui pendant un mois. Il était présent avec nous dans les répétitions, pour pouvoir vraiment sentir les moments où c'était judicieux qu'il intervienne, sur des notes, sur voilà, tel mot, il avait envie de faire une note de musique particulière, ou dans les aigus, ou dans les graves, et il avait cette liberté-là. Après, bien sûr, on est obligé de caler tout ça, mais il y a eu beaucoup de travail d'improvisation, et je pense que c'est ce qui lui plaisait aussi.
Cette pièce a été jouée à Lyon, au Théâtre des Marronniers.
Oui, à la création en 2014.
Et vous l'avez joué ailleurs aussi.
Alors ensuite, on l'a joué à l'Espace 44. Mais avant l'Espace 44...
Toujours à Lyon, enfin à la Croix-Rousse.
Toujours à Lyon. On l'a joué un petit peu dans d'autres endroits, du fait que les gens l'avaient vu au Marronnier. Donc on a joué à Jonage également. On l'a joué vers Aurillac, pardon. Et puis on a fait une forme lecture aussi, donc on a joué pas mal dans des médiathèques de Bron, dans le 38 également. Voilà, il a fait un bon petit voyage déjà en la première année. Et après on a fait une demande de label, labellisation du centenaire par la mission qu'on a obtenue. Donc ça nous a aussi donné une visibilité plus forte. Et on s'est dit, continuons, puisque en plus, c'est vrai que c'est la période de l'anniversaire. Anniversaire, c'est un terme un peu particulier.
Oui, on est dans les 4 années du centenaire.
Donc, on s'est dit, il faut le faire vivre le plus longtemps possible. Donc, ensuite, on l'a joué à l'Espace 44. Suite à ça, on a eu encore d'autres dates. Et on l'a joué à Saint-Quentin-Falavier dernièrement, cette année.
Et en juillet, en Avignon, dans quel théâtre?
Alors, on joue à l'Espace Roseau tous les jours à 17h30. Il y a une chose importante que je n'ai pas dite, c'est tout le travail de vidéo également qu'il y a dans le spectacle.
C'est vrai.
Parce que là, j'y tiens, parce qu'en fait, c'est tout un travail de dessinateur. C'est important parce que ça aussi, ça amène par le visuel également, non seulement des pauses dans le spectacle, plus les mots, mais les images qui parlent par elles-mêmes, et de la poésie.
Quel est le retour que l'on vous fait à la sortie de ces différents lieux où vous avez joué? Parce qu'on pourrait dire encore la guerre. N'y aurait-il pas des choses plus rigolotes?
Eh bien, en fait, les gens ne sortent pas du tout déprimés. Au contraire, ils se trouvent apaisés. J'ai été surprise de ça. C'est que les gens me disent, à aucun moment, c'est pas tous. On est avec eux. C'est très sobre. Il n'y a pas de décor. Il y a juste un pianiste sur scène, ces deux hommes et moi-même sur un petit tabouret et la vidéo. Et puis il y a aussi des moments drôles parce qu'il fallait bien tenir. Donc les hommes blaguaient entre eux, se faisaient des... Il y avait des respirations, heureusement. Donc du coup, même les gens arrivent à rire par moments.
C'est là où les lettres des Poilus ont apporté des témoignages troublants, sur ces aspects plus cocasses.
Et oui. Et je pense que pour moi, c'était important de surtout pas être que dans le pathos. Non, j'avais envie aussi d'une note d'espoir. D'ailleurs, le spectacle se termine avec Voilà, de l'espoir volontaire, même si on sait bien que 20 ans après, il y a eu une seconde guerre. Mais oui, je suis plus, je voulais une note de paix éventuelle, paix entre les hommes. Et d'ailleurs, j'ai mis en avant cette nuit de Noël entre les Allemands et les Français, d'ailleurs,
Ouais.
où ils se retrouvent. Voilà, on comprend que finalement, dans les deux camps, c'était la souffrance était la même et l'envie que tout s'arrête. L'humain reste l'humain. Et je pense qu'il faut avoir espoir que l'homme se dirige plutôt vers le haut que...
Oui, que dans les tranchées.
que dans les tranchées. Ouais.
Vous avez cité que c'était un travail qui est fait dans le cadre de la Boss Compagnie.
Oui.
Ça, c'est votre compagnie, on va dire, où vous êtes la plus fidèle, si je peux dire, où vous êtes même, je crois, co-directrice artistique.
Alors, directrice, non, parce que c'est plutôt responsable artistique, on va
responsable
dire.
Responsable.
En fait, on n'est pas, on est, oui, on est dans la mise en scène, en fait, surtout donc avec Michel Laforêt, qui est lui vraiment le premier à avoir vraiment mis en place cette compagnie. Moi, je suis
Le
arrivée...
comédien rond.
Oui, voilà. Et en fait, je suis arrivée après. Parce qu'en fait, au départ, il me mettait en scène. Puis on se connaît depuis plus de 20 ans. Et il m'a demandé un jour, est-ce que tu veux pas intégrer davantage la compagnie, faire de la mise en scène
Dans le cadre de cette Boss Compagnie, vous jouez dans la comédie sur un quai de gare. Vous jouez Monsieur de Pourceaugnac de Molière
oui.
avec des masques. Il y a le journal d'une femme de chambre aussi, de Mirbeau. Donc vous êtes très présente dans la vie de cette compagnie. C'est important
oui.
pour une comédienne d'être au sein d'un groupe.
Je pense que oui. C'est rassurant d'être quelque part comme dans une famille. Je trouve que ça se perd un peu maintenant l'esprit de troupe. On n'a plus forcément les moyens aussi. Hein, Mais pour moi, c'est important parce que il y a une fidélité qui est là. Je retrouve des compères, des compagnons de scène. Et oui, pour moi, c'est important.
Des compères, comparses, compagnons.
Ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est vrai que je ne pourrais pas n'avoir qu'une compagnie. J'ai besoin d'être toujours dans la rencontre de d'autres metteurs en scène, d'autres comédiens, sans cesse.
Vous avez fait, plus jeune, le Conservatoire National d'Art Dramatique de Lyon, donc il y a une formation avec des petites spécialités, ça doit être important puisque ça apparaît sur votre fiche technique de l'agent, c'est-à-dire vous avez appris des techniques de cirque. Vous avez fait de l'équitation.
Alors, ce n'était pas du tout dans le cadre du conservatoire.
Ah, c'est à côté.
Non, c'est ça. J'ai fait 2 ans au conservatoire. Et en fait, pour moi, ce n'était pas suffisant. J'avais besoin de me former encore, et toujours d'ailleurs, et de découvrir des techniques différentes. Parce que je crois que je me cherchais moi-même.
Ouais.
Donc, du coup, je suis partie. Bon, j'aime beaucoup le travail corporel, puisqu'au départ, j'étais dans le milieu de la danse, entre guillemets. Et du coup, voilà, tout ce qui était acrobatie, oui, j'aimais beaucoup le clown, le travail du clown, la danse. Donc,
Oui, j'ai vu même le buteau, hein, cette
buteau,
danse
oui.
dite des ténèbres
ouais.
ou du corps obscur.
Ouais.
C'est une danse japonaise,
mm-hmm.
mais c'est plus, enfin, c'est une danse et aussi c'est autre chose.
C'est plus profond, oui. Je dirais que c'est plus profond. Et moi, j'en ai un souvenir même douloureux, entre guillemets. C'est-à-dire que, oui, il faut aller loin dans soi.
Et le chant.
Ah, le chant.
Là aussi, pour
oui,
l'aspect
oui.
physique, la voix.
Ah oui, pour moi, le chant... Enfin, c'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais je pense qu'un comédien, et c'est important qu'il sache chanter et bouger avec son corps. Il me manque l'instrument de musique pour
ouais.
être complète au niveau de cet art. Mais je pense que c'est, oui, la voix, on en a besoin au théâtre. Et du coup, c'est vrai que petit à petit, je suis allée dans des spectacles à la fois théâtral et musical, comme celui qu'on vient de faire sur Brecht, où on chante également dans le spectacle.
Sainte-Jeanne des Abattoirs,
mm-hmm.
hein, que vous allez jouer à Genève.
On espère le reprendre à Genève l'année prochaine.
Dans cette formation physique, quelle serait pour vous la priorité, l'urgence, là où vous en êtes, quelque chose qui vous ferait vraiment envie de travailler, si vous en aviez la possibilité, si vous en aviez le temps,
mm-hmm.
vous iriez vers quel endroit?
Alors, c'est vrai qu'actuellement, je vais dans l'audiovisuel davantage qu'auparavant. parce que la vie fait qu'on me demande actuellement et qu'on me demandait moins à l'époque. Et c'est vrai que c'est intéressant ce travail-là, qui est, qui est différent puisque vous êtes plus dans une retenue, puisque la caméra vient vous chercher, vient chercher les émotions. Et au théâtre, on est obligé, parfois, même si on est très vrai, de projeter. Et c'est une autre technique qui me fascine. Qui me plaît.
En 96, vous avez tourné vous avez fait une apparition dans un film de Bertrand Blier. Oh, oui, c'est peut-être pas le meilleur des films, hein, d'après ce qu'on dit. Homme.
Ah si, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà,
les critiques sont très partagées.
Alors peut-être parce que c'était aussi ma première fois.
Non, pas les critiques vous concernant, mais concernant le film.
Oui, j'ai bien compris. Mais peut-être que j'ai aimé le film d'autant plus, peut-être parce que j'étais impliquée, que c'était la première fois que je tournais avec Gérard Lanvin. Donc
il y avait Lanvin.
Voilà, tout ça qui faisait que je pense...
Vous avez fait des courts-métrages. Dernièrement, en 2015, vous en avez fait trois. Qui sème l'amour, Marcia, Mongeville. Ça, est-ce que c'est dû par le fait même... Alors, d'une part, que vous cherchez, vous êtes très intéressé à le faire, mais c'est parce que la région Rhône-Alpes aussi est une région qui est assez propice pour accueillir des tournages de films.
Oui, avec les studios 24, oui. France 3 également participe à énormément de tournages. J'ai l'impression, en effet, qu'il y a de plus en plus d'opportunités à Lyon. Et j'espère que ça va être de plus en plus... qu'on va un petit peu plus décentraliser le cinéma. C'est vrai que beaucoup de choses se tournent à Paris. Les rôles... Alors, on reste encore avec des petits rôles hein, sur Lyon. Il est difficile de décrocher des gros rôles. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a de plus en plus de séries aussi qui ont du succès. Donc, je dis que c'est tant mieux pour Lyon, tant mieux pour nous.
Vous avez fait de la télévision. En 98, vous êtes dans Louis la Brocante.
Oula, c'est vieux, oui.
Un bon souvenir ?
Oui, c'était
une femme enceinte.
Oui, une femme enceinte.
Plus belle la vie en 2004.
Oui. J'en parle pas trop parce que non, je suis méchante parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'aime pas trop les sitcoms en général. Ouais. Je trouve pas ça et j'avais tendance à juger le jeu des comédiens. Et ça, c'est maintenant, je ne juge plus parce que je l'ai fait. Et c'est vrai que les conditions de tournage sont telles qu'il est difficile d'être bon, parce que ça va très très vite.
C'est très rapide.
Il y a deux caméras, une caméra sur vous, une caméra sur l'autre acteur. Enfin, c'est
très
vraiment
peu de prise.
des plans complets de scène. Ah oui. Il est difficile de... Je critique plus du coup maintenant les comédiens de série.
Dans ce style de série, si on repère quelqu'un qui a un bon jeu, on peut dire qu'il est drôlement bon.
Oui.
Parce qu'il a su, dans des conditions difficiles, montrer ce savoir-faire.
Oui, je pense que c'est une bonne école.
Nous verrons par la suite si on les revoit. Où est-ce que l'on vous a vu aussi Les Nuits d'Alice, en 2010.
Oui. Alors bon, là, c'est un personnage qui était plutôt rigolo. Je faisais la meilleure amie de Mathilde Amet. Mais moi, je ne me suis pas aimée du tout, par contre. Ça, c'est toujours un petit peu difficile, l'image qu'on a de soi et l'image qu'on donne sur un écran. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal avec ce film-là au niveau de ce que j'ai vu, du retour.
Ces rôles au cinéma, court-métrage, télévision, il faut passer par un agent, c'est nécessaire. Vous avez Anne-Claire Chaffard.
Oui, mais on peut, moi au début je n'avais pas d'agent, on peut, et puis j'ai beaucoup d'amis qui tournent sans avoir d'agent. C'est vrai que c'est plus confortable parce qu'on n'a surtout pas à discuter financier et on sait bien que les artistes, c'est pas forcément une chose qu'on aime faire. Ouais.
Et qui savent forcément
se
bien
vendre,
faire.
Financièrement, c'est difficile. Alors que là, on passe par un agent qui gère tout ce qui est financier, votre cachet, il prend un pourcentage. Et puis surtout, il est en réseau avec les directeurs de casting. Et voilà, on vous appelle, on vous dit, voilà, il y a un casting tel jour.
C'est une Lyonnaise, non ?
Oui.
Alors, elle s'affiche aussi sur Paris et sur Marseille. Le Paris-Lyon-Marseille.
Oui, c'est chouette. Oui, en plus, c'est... Je trouve que c'est facile pour travailler aussi bien à Paris qu'à Marseille en TGV. C'est rapide. Moi, je connais bien les trois villes. Enfin, Marseille, ma maman a habité 15 ans à Marseille. J'ai même fait le Buteau. On parlait de Buteau tout à l'heure. Ouais. J'avais fait une formation d'un mois à Marseille. J'aime beaucoup cet endroit, enfin, cette ville.
Alors, vous apparaissez dans la liste des comédiennes sur Lyon, dans la liste aussi Marseille, mais pas Paris.
Oui, alors elle va me mettre dans la liste Paris parce qu'il faut avoir une adresse à Paris. Donc là, j'ai un logement à Paris maintenant. Donc du coup, je vais pouvoir aussi prospecter à Paris et je pense que c'est essentiel.
Avec un agent, il faut établir une relation de confiance.
Oui, alors on se connaît depuis presque 20 ans. Elle m'a vue au théâtre, elle m'a suivie pendant, on va dire, une dizaine d'années avant de me proposer de...
C'est d'intégrer. Elle qui est venue vous chercher.
En fait, c'est nous, comédiens, où on invite les agents à venir vous voir jouer. C'est le seul agent, il faut savoir, de Lyon en plus. Hein.
D'accord.
Donc, c'était sur Antigone d'Anouilh. Quand je joue Antigone, à la fin du spectacle, elle m'a dit, écoute, on se voit là, j'aimerais que tu intègres l'agence. Voilà. Mais c'est eux qui décident de vous prendre ou pas, ça c'est sûr.
Vous pouvez dire, oh, j'aimerais bien maintenant, où j'en suis, faire ce genre de choses. Est-ce que tu peux me trouver un rôle?
Bah, en fait, oui, ce n'est pas elle qui décide, c'est les directeurs de casting. Ouais. Ils ont donc un critère, une femme qui fait 40 ans, brune, ou alors, elle n'a pas trop grand-chose à dire. C'est eux qui décident si vous correspondez ou pas.
Eux, c'est-à-dire la personne qui décide le casting dans le film, dans la production.
Bien sûr. Oui, oui, oui.
Mais alors, quel est le rôle alors de l'agent?
Elle nous met en lien avec les directeurs de casting. C'est-à-dire que les directeurs de casting arrivent à Lyon, disent on cherche des comédiens. Elle les reçoit, ils voient un petit peu le catalogue, ils choisissent, cette personne m'intéresse, celle-ci. Et elle, ensuite, nous...
Mais elle peut défendre quand même un peu la comédienne, le comédien. Dire parmi mes poulains, je verrais plutôt telle personne.
Oui, j'imagine oui. Ça, je ne sais pas trop, mais je pense que oui, elle le connaissant bien, elle peut peut-être leur dire, je vous conseille peut-être, mais c'est difficile hein, de... Ouais.
Vous possédez aussi la langue italienne, alors il y a des origines là, mais ça vous a servi en tant que comédienne?
Ben oui, en fait, j'ai fait un duo de chansons et textes français et italien, et c'est à partir de là que j'ai décidé d'apprendre davantage l'italien, parce que je le connaissais de mes parents. Mais donc depuis 5-6 ans, je prends des cours à la Chambre du commerce italienne pour vraiment mieux le parler, mieux l'écrire. Et du coup, j'ai de plus en plus envie de faire des spectacles à la fois français et italien. Alors un de mes désirs, oui, ce serait d'arriver à jouer avec une compagnie italienne. Ça, ce serait un désir assez très fort.
Que l'on ne se dise pas, mais celle-là, elle est française.
Si, ça me gêne. Non, parce que j'ai un accent français et c'est ce qui est, je pense, et intéressant. Puis tant mieux pour ceux qui n'ont pas d'accent. Hein. Je pense que c'est bien de parler une langue sans accent. Mais moi, je sais que j'ai un accent, c'est sûr. Oui. Je ne le parle pas assez bien. Je ne suis pas assez bilingue pour dire que je n'ai pas d'accent. Non, ce n'est pas vrai.
Je reviens à l'idée de compagnie. Il y a aussi dans votre carrière la compagnie Leila Soleil. Mm-hmm. Alors, moins que Boss Company, mais ça a été quand même aussi un bout de route ou peut-être un retour.
C'était un spectacle qui était la putain respectueuse de Sartre. Alors là, j'ai accepté le rôle parce qu'en fait, j'avais joué une scène de la putain respectueuse de Sartre quand j'avais donc 21 ans, quand je suis rentrée au Conservatoire de Lyon. C'est avec une des scènes de ce texte que j'ai eu le concours. Donc quand le metteur en scène m'a proposé de jouer le rôle,
signe du destin,
j'ai dit
clin d'œil.
Oui. Et puis c'est vrai que c'est un très beau texte et je me suis régalée.
C'est un rôle aussi avec une présence sur scène.
Oui, et puis non seulement
forte.
La présence, oui, et puis le contenu qui m'intéressait.
Vous aimez quand même jouer ce rôle de femme provocatrice. Le journal d'une femme de chambre aussi n'est pas anodin.
C'est vrai. J'avoue que j'ai une prédilection pour ce genre de rôle, où défendre un petit peu le... La femme, oui. Sans être féministe, je ne suis pas 100%.
Une militante,
militante. Je trouve que c'est... Enfin, c'est fort à jouer. On y met de nous. Et oui, je pense que ça me plaît.
Vous auriez quelque chose à dire par rapport au statut d'intermittent?
Ah, le statut...
Qui n'est pas toujours bien compris, par monsieur tout le monde comme moi.
Moi, j'ai l'impression que depuis que je suis intermittente, je me suis toujours battue pour le garder. Déjà, beaucoup d'années en arrière, déjà, je me souviens avoir utilisé. Enfin, on était au TNP, dans les locaux, enfin, le théâtre, à essayer de défendre nos droits. Enfin, c'était déjà très fort. J'ai l'impression que chaque fois, ça revient. On n'est jamais tranquille. Alors, le MEDEF, voilà, ne veulent pas de nous, veulent mettre la responsabilité sur les intermittents, alors que tout ça, c'est faux. On le sait, c'est prouvé, les chiffres sont là, mais non. Je sais pas. En effet, moi, j'ai peur que un jour ou l'autre, comme ils n'arrivent pas à le supprimer totalement, petit à petit, ben, ils font en sorte qu'il y ait de moins en moins d'intermittents, en donnant moins de temps pour devenir intermittent, plus d'heures pour devenir intermittent. Enfin, tout est fait.
En touchant sur les paramètres. Voilà. Les conditions.
Je pense que c'est voilà, ils se rendent bien compte que supprimer ce statut paraît impossible, mais par contre, utiliser d'autres moyens pour y parvenir, c'est ce qu'ils font.
Bon nombre de comédiens comme vous, bon, vous faites des actions scolaires.
En fait, oui, je suis aussi dans la formation, j'interviens dans des compagnies amateurs. En tant que metteur en scène, je suis employée en tant que metteur en scène, donc je dirige des groupes et je crée des spectacles à l'issue de ces formations.
Il y a eu avec les scolaires en 2011 un spectacle.
Ricordi, oui. Alors ça, c'était sur. Oui. Alors, j'étais partie sur le témoignage italien. Donc, j'avais fait une table ronde avec des Italiens qui s'étaient prêtés au jeu et on avait fait un petit questionnaire et chacun avait un petit peu raconté leur vie. On les avait enregistrés. À partir de ça, j'en ai fait un spectacle, oui. Et c'était aussi un moment très fort parce que.
C'est faire découvrir le théâtre aussi.
C'est faire découvrir le théâtre. Et que ce soit adulte, ado ou enfant d'ailleurs, donner le goût, c'est important pour moi de faire connaître, j'ai eu des jeunes de 7 ans qui ont démarré, ils avaient 7 ans, maintenant ils en ont 20, ils sont encore là et je trouve ça chouette.
Et comment vous avez découvert le théâtre vous-même?
Alors moi j'ai découvert le théâtre en 5e grâce à une remplaçante de français qui nous avait fait travailler autour du texte de Molière, et c'était Les Fourberies de Scapin. Et voilà, j'avais fait cette petite scène, elle m'avait mis 18, après elle m'avait fait rejouer quand tout le monde était passé, puis elle m'avait 19, puis voilà, puis d'un coup, je me suis dit, ah bon, mais alors ça, je sais faire ça, parce que j'étais quelqu'un qui avait des difficultés au milieu scolaire dû à un problème de dyslexie, qui, bon, à l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était. Mon français était... Je n'étais pas très, très forte en français, du coup, avec mes fautes d'orthographe. Et cette femme m'a fait découvrir le théâtre et surtout quelque chose que je réussissais. Parce que malheureusement, hein, c'est encore le problème actuellement, hein, de la notation. Les enfants, si on a des mauvaises notes, on se sous-estime souvent. Hein, et c'est assez catastrophique, je trouve. Et là, et ben d'un coup, je savais faire ça et j'étais capable. Et voilà, prise de confiance en soi.
Une porte s'est ouverte.
Une porte s'est ouverte et ne m'a plus quittée. Et donc, c'est vrai que ça, c'est tout simple, hein, cette histoire. Mais pour moi, elle est importante parce que du coup, je pense que c'est de là où est née mon envie aussi de former les jeunes. Et j'aime beaucoup aussi travailler dans les lycées professionnels ou les jeunes en difficulté, parce que déjà on se rend compte qu'ils ont une richesse au niveau imaginaire très très forte. Et quand on leur dit c'est bien, on voit leur regard se transformer, quoi, comme si jamais on leur avait dit que c'était bien ce qu'ils faisaient. Et je pense que tout vient de là et qu'il faut donner confiance aux jeunes, aux moins jeunes, parce qu'il y a aussi des cas d'adultes qui sont complètement en manque de confiance en eux. Donc oui, je pense que tout est né de là.
En Avignon, les saisons de l'âme, vous seriez certainement contente si à la sortie, après une représentation, vous découvrez qu'il y a ce type de public, des jeunes lycéens qui viennent et qui vous disent on a apprécié, on a découvert quelque chose d'intéressant.
Oui, alors on a fait des scolaires avec ce spectacle et c'est vrai qu'on a eu des jeunes ensuite avec qui on a pu échanger et c'était touchant parce qu'ils nous disaient on ne voit plus les choses de la même façon. On ne voit plus ces poilus de la même façon. Voilà, c'était plus de l'abstrait. C'était du concret parce qu'ils avaient en face des hommes en chair, en os, qui parlaient, bien sûr, à travers les poilus. Mais comme si, d'un coup, ça devient vivant, ça devient réel. Et ça, déjà, je trouvais ça superbe d'entendre ça de leur part.
Quand on va en Avignon, les acteurs qui sont là-bas, il y a à la fois deux objectifs, c'est de faire découvrir le spectacle qui est montré avec l'espoir de pouvoir avoir des dates et aussi l'espoir plus personnel de se faire découvrir pour avoir peut-être une autre issue pour jouer quelque chose, une autre pièce ailleurs ou de pouvoir tourner un bout de film. Il y a ces deux aspects.
Alors, je dirais qu'au début, parce que j'ai fait Avignon plus jeune,
oui,
oui, j'avais, je pense, les deux. Là, sur ce spectacle-là, et maintenant où j'en suis, je défends surtout le spectacle. J'ai surtout envie et j'espère que ce spectacle sera vu par non seulement un public, et ça c'est le plus important, c'est le public, mais aussi des programmateurs pour que ce spectacle puisse être joué un peu partout. Parce que le problème de petites compagnies lyonnaises, entre guillemets petites, hein, je m'entends, c'est que bah, les programmateurs ne viennent pas. Ils ont rendez-vous à Avignon. Donc pour être vus, pour pouvoir faire vivre le spectacle plus longtemps, ben, il faut faire Avignon. Quelque part, ça devient presque une obligation. Alors bon, il y a d'autres festivals hein, qui sont aussi très, très chouettes. Il y aurait beaucoup à dire sur le festival d'Avignon, hein, sur ce qu'il devient.
Le plus grand théâtre du monde, mais qui peut être le pire et le meilleur.
On est bien d'accord. Mais voilà, j'ai pris le parti de tenter, encore une fois, de faire Avignon pour essayer voilà, de vendre le spectacle. Du coup, s'il est vendu, il joue ailleurs, un peu partout, ben, il y a plus de monde pourra le voir.
Et pour que les programmateurs viennent voir, il faut aussi que le spectateur lambda soit là.
Ah oui.
Car il suit quand même des moments le programmateur. Il n'est pas uniquement le découvreur. Des moments, il entend que ce spectacle est plaît, que les gens en parlent dans les files d'attente ou ailleurs, et eux-mêmes, ça les attire.
Oui, également les articles. Quand il y a un article, un bon article vous attire forcément plus de monde.
Et quelques interviews, peut-être.
Peut-être.
En espérant que celui-ci sera capté par quelqu'un qui va le découvrir.
Merci.
En tout cas, Karine, merci. On a fait un bon tour d'horizon.
Oui, merci beaucoup.
Est-ce que pour finir, alors exercice un petit peu difficile,
oui,
mais est-ce que je peux vous demander de faire une lecture d'un texte, un petit texte, c'est une traduction de Leonard Cohen, qui s'intitule « Comment dire la poésie ?»
Le poème n'est qu'une information. C'est la constitution du pays intérieur. Si tu le déclames et si tu le gonfles avec de nobles intentions, alors tu ne vaux pas mieux que les politiciens que tu méprises. Tu es quelqu'un qui agite un drapeau et qui fait bassement appel à un patriotisme sentimental. Pense aux mots comme à une science, pas comme un art. Ce sont des comptes rendus. Tu parles devant une assemblée du Club des explorateurs de la Société géographique nationale. Ce sont des gens qui connaissent les risques de l'escalade. Ils t'honorent de considérer ce que tu dis comme allant de soi. Si tu leur mets le nez dedans, ce sera une insulte à leur hospitalité. Parle-leur de la hauteur de la montagne, de l'équipement que tu as utilisé. Sois précis à propos des surfaces et du temps qu'il t'a fallu pour les escalader. Ne cherche pas à provoquer dans le public des hoquets et des soupirs. Si tu en mérites, ils ne viendront pas de ton évaluation, mais de celle de ton public. Ce sera dans les statistiques, non dans le tremblement de la voix ou dans les effets de manche. Ce sera dans l'information et la tranquille organisation de ta présence.
Réaction ?
Je trouve que ça résonne par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Je trouve ça très, très en lien. Voilà, il faut laisser faire les choses, se laisser regarder, ne pas tricher. C'est ça, les mots. Et pour en revenir encore une fois au texte de Parole de Poilu, c'était en tant que metteur en scène mon intention, laisser la place aux mots avant le jeu. Bien sûr que le jeu est là, mais il doit être discret, la mise en scène ne doit même pas être vue. Tout en étant bien sûr travaillé, mais la place aux mots.
On se donne rendez-vous en Avignon pendant tout le mois de juillet, au théâtre.
À l'Espace Roseau, tous les jours, à 17h30, du 7 au 30 juillet.
Merci Karine.
Merci beaucoup.